Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ma famille va bien. On est content d'être ici ce matin. Puis, je suis content de voir l'Église de Longueuil. On vient pas souvent. On est venu pour des conférences, là, mais le dimanche matin, je pense que c'est une première. Ouais. Mais on pense souvent à vous. On prie pour vous. On a l'habitude, pendant le culte à Rosemont, de prier pour les églises de la région de Montréal, nos églises filles, à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Côte-des-Neiges. Verdun, mais on pense à vous aussi. Puis je suis sûr qu'on travaille dans la même mission. Nous connaissons la bonté de Dieu, sa fidélité. Nous l'avons chanté ce matin et nous avons vu même dans le chant « Béni éternel, mon âme », sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Il est toujours fidèle. Il peut toujours être notre rocher, notre forteresse. Mais il arrive pourtant des malheurs dans la vie des chrétiens. Et même, c'est surprenant parfois de voir une personne à quel point elle est accablée de malheurs, une suite de malheurs, une suite de souffrances chez une même personne. Et pourquoi des chrétiens fidèles, des chrétiens qui marchent droitement devant Dieu, voient tout à coup des épreuves et des malheurs, parfois des grands malheurs. Et parfois c'est une suite de malheurs aussi, puis ça les pousse vraiment au désespoir. Pourquoi ça arrive, ces choses-là? Lorsqu'on voit un criminel, on en voit à la télévision parfois qui se font arrêter, on pense à Vincent Lacroix qui a été arrêté. Quand on voit un criminel comme ça qui se fait prendre et qui est puni par la justice, on se dit, bon, mais le crime ne paie pas. Il y a tout de même une justice. Mais quand on voit quelqu'un qui est bon, une bonne personne, qui a une bonne réputation, qui souffre, il y a une question qui vient, pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet cela? Pourquoi un chrétien peut perdre son emploi, peut perdre ses biens? Pourquoi une famille chrétienne peut voir sa maison passer au feu, ou tomber dans la maladie, ou un accident de voiture? Pourquoi des parents peuvent mettre au monde un enfant infirme, ou même perdre un enfant à cause de la maladie ou d'un accident? Pourquoi il arrive des choses qui nous semblent être des injustices? Pourquoi aussi Dieu permet que parfois même des chrétiens soient victimes d'attaques du monde, d'attaques de non-chrétiens contre eux? Attaque d'un voisin, d'un collègue de travail, de n'importe qui, mais attaque du monde, attaque de Satan. Et cette question-là est soulevée à plusieurs reprises dans la Bible. On le voit dans plusieurs psaumes aussi. Mais il y a un livre qui traite au complet de ce sujet-là, de pourquoi la souffrance pour le juste, et c'est le livre de Job. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. C'est sûr qu'il y a plusieurs chapitres dans Job. Inquiétez-vous pas, on ne va pas tout lire. On va lire certains passages clés. Mais on va voir l'histoire de Job pendant cette période-là de sa vie. Et on va voir aussi différentes théories qui sont amenées dans le livre pour expliquer pourquoi il y a de la souffrance. Puis finalement, on va voir quelle est la réponse de Dieu. Parce que Job, en posant la question, fait appel à Dieu. Puis on va voir quelle est sa réponse. Donc, je vous invite à tourner dans Job. C'est un livre pas mal au centre de la Bible. Là. C'est juste avant les psaumes. Job 1. Job 1:1. Alors, lisons les 8 premiers versets. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, ou on pourrait dire les anges de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Il est dit que Job était un homme intègre et droit. Donc, ça signifie qu'il était honnête dans tout ce qu'il faisait. Il était juste. Les gens qui le regardaient marcher savaient qu'il était honnête et juste. Il est dit aussi qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, non seulement face aux hommes, il était droit, mais face à Dieu, il était droit. Dieu voyait qu'il le servait. Quand on dit qu'il craignait Dieu, c'est qu'il lui était fidèle. Il servait seulement que lui. Il se détournait du mal, donc il cherchait à ne pas pécher, à suivre toute la loi de Dieu. Il était aussi un bon père. Il se souciait non seulement du bien-être de ses enfants, mais aussi de leur état spirituel. Il intercédait pour ses fils et ses filles auprès de l'Éternel. Il offrait des holocaustes, même juste au cas où ils auraient péché. Donc, il prenait vraiment soin de sa famille. Il était irréprochable. Et même Dieu rend de lui un bon témoignage. Il dit, il l'appelait mon serviteur. Et même Dieu dit que Job était le serviteur le plus fidèle sur la terre à cette époque. Et Job avait été grandement béni. Il était riche, il possédait de nombreux troupeaux. Il était puissant, parce qu'il avait de nombreux serviteurs. Et ce n'était pas seulement des mercenaires qui louaient leurs services, là, ça lui appartenait, ces serviteurs-là. C'est un peu comme des esclaves. C'était à lui. Il avait une grande réputation aussi, donc il avait en plus l'honneur. Il était considéré, c'était l'homme le plus considéré dans tous les pays aux alentours. C'était lui le point de référence. C'était le point de comparaison. Puis il avait en plus été béni d'une grande famille. Il avait 7 fils, et c'était symbolique ça, 7 fils. On retrouve ça souvent dans l'Ancien Testament. 7 fils, ça veut dire un signe de grande bénédiction de l'Éternel. Donc Dieu l'a béni. Et pour les gens de l'époque, ça voulait dire que vraiment Dieu approuvait ce que Job faisait. Et c'est à ce moment-là que Satan, l'accusateur, se lève, puis met le doigt sur ce qui semble être un bobo. Il pose la question qui lève un doute. Est-ce que Job fait tout cela pour rester dans les bonnes bénédictions de Dieu? Est-ce qu'il fait ça pour rester dans la bonne grâce de Dieu? Est-ce qu'il fait ça pour son propre intérêt? Ou si vraiment il sert Dieu fidèlement et sincèrement? Et là, Satan se permet de semer le doute. Alors, continuons à lire à partir du verset 9, Job 1, 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa famille, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de l'Éternel est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et tes serviteurs et il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur tes chameaux, les ont enlevés, les ont passés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parla encore lorsqu'un autre vint. Il dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent d'est est venu de l'autre côté de la mer, du désert, et a frappé contre eux, contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job a perdu toute sa richesse. Il a perdu le fruit d'années d'efforts, d'années d'énergie. Il a aussi perdu tout son pouvoir. Tous ses serviteurs ont été décimés. Il a perdu ses enfants qu'il aimait. Il a perdu sa famille à qui il allait léguer son empire. Ses fils et ses filles pour qui il a prié tant d'années, tout ça s'envole en fumée. Mais voyant cela, Job ne pèche pas. Il ne renie pas son Dieu, il ne se révolte pas. Même au contraire, il le bénit. Il a passé le test. Mais Satan ne s'arrête pas là. Alors, continuons à lire au chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il est prêt à le donner pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent le manteau et se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent là, assis auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une seule parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. La maladie que Satan inflige à Job est très grave, parce que le but de Satan en attaquant Job au niveau de sa chair, au niveau de son corps, c'était même d'aller lui faire croire qu'il allait mourir. Satan a pris le pari que si il faisait croire à Job qu'il allait mourir, qu'il allait perdre sa vie, que là, Job allait renier Dieu et se révolter contre lui. Job, en plus d'être atteint de la maladie, il a perdu toute sa fierté, tout son honneur. Ses amis qui viennent l'avaient vu, un grand homme. Puis là, ils ne peuvent même pas le reconnaître tellement il est démoli. Il est assis sur la cendre, plein de plaies, d'un ulcère. Il a perdu ses capacités physiques, il a perdu toute force, tout désir de combattre en plus. Au chapitre 29, je vais vous lire un extrait. Job décrit la réputation qu'il avait avant et ce qu'il a perdu. Il dit, « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche et les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. » On m'écoutait et on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux. Je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. » Là, il a tout perdu, tout honneur. Il a même perdu l'appui de sa femme. son appui indispensable. Dieu a dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide semblable à lui. Et là, dans ce moment où Job aurait eu le plus besoin de l'appui de sa femme, de sa consolation, son encouragement, elle le rejette. Elle le tente à rejeter son Dieu. Puis même ses amis qui viennent pour le secourir, en fait, ils le voient dans la désolation, ils ne savent même pas quoi dire. On dit que le vrai ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Eux, c'était, on ne peut pas considérer que c'était vraiment des amis. Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour l'aider. Puis on va voir par la suite qu'est-ce qu'ils ont dit pour supposément l'encourager. Il n'y a aucune souffrance qui aurait pu être pire pour Job. Mais encore une fois, il passe le test auquel Satan l'a soumis. Il ne renie pas son Dieu. Il ne pêche pas. Il prouve qu'il servait Dieu d'un cœur fidèle, d'un cœur sincère, et que ce n'était pas pour son intérêt. Parce qu'il continue à le servir et à lui être fidèle, même s'il a tout perdu. Donc, il passe le test. L'histoire aurait pu se terminer là. Mais la question demeure, pourquoi il est dans la souffrance? Et il est encore dans la souffrance. Et les choses qu'il a perdues ne peuvent pas être restituées. Sa maison est démolie, ses serviteurs sont morts, ses enfants sont morts. Et lui, il est malade au point qu'il pense qu'il s'en va vers la mort. Pourquoi un serviteur fidèle de Dieu subit de telles souffrances? Alors Job ouvre la bouche et il crie son désespoir. Il aurait même souhaité ne pas exister. Il souhaiterait être mort. Job 3:3 dit « Périsse le jour où je suis né ». On est vite à juger quelqu'un qui est dans le désespoir et qui a perdu tout courage puis qui a même peut-être des pensées suicidaires. Mais parfois, quand quelqu'un est aux prises avec tant de souffrances, ça peut être la seule voie qui lui semble être une porte de sortie. La seule paix possible serait la mort. Puis Job en est presque arrivé là. Il ne dit pas qu'il veut intenter à sa vie, mais il aurait préféré ne pas mourir, puis il souhaite la mort. Il dit « Maudit le jour de ma naissance ». Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de mes entrailles, de ses entrailles? Puis ensuite, il se demande pourquoi Dieu a permis qu'il vive de telles souffrances. Pourquoi qu'il ne l'a pas juste tué? Job 3, 20, 21, il dit « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? » C'est alors que les trois amis commence à parler, commence à prononcer un long discours. Puis le livre de Job est écrit de manière poétique. Donc, ils n'ont peut-être pas parlé exactement de cette façon-là, mais c'est le discours qu'ils ont prononcé à Job, à tour de rôle. Puis là, les amis présentent leur théorie, leur théologie. C'est une première théorie qu'on voit de comment ils voient Dieu. Puis c'est, même s'ils présentent ça comme étant d'une grande sagesse, puis basé sur l'expérience qu'ils ont de nombreuses années, c'est très simple. Il croit que le bonheur et le malheur sont des conséquences directes de ce que l'on fait. Si l'homme fait le bien, il va avoir des bonnes choses qui vont se passer dans sa vie. S'il fait le mal, il va avoir des mauvaises choses qui vont se passer dans sa vie. Le juste est récompensé, le méchant est puni. Ce qu'il dit, c'est que dans le fond, il voit Dieu comme étant quelqu'un de saint, de juste, qui aime le juste et qui va le récompenser, et qui haït le méchant, celui qui fait le mal, et qui le punit. C'est simple. Puis ils se basent sur l'expérience qu'ils ont vue. Ils se basent sur leur propre expérience aussi. Eux qui sont justes ne vivent pas les malheurs, en tout cas pas les malheurs que Job a vécu. Ils disent dans Job 4, 7 à 9, « Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, le péché, l'injustice, et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées. » Donc, dans leur premier discours, on voit que les amis de Job veulent l'encourager à se repentir. Ils sont convaincus que Job sait ce qu'il a fait de mal, puis il l'encourage, bien, repends-toi, il repasse dans les bonnes grâces de Dieu, il va te guérir, il va te relever. Pour eux, Dieu est en train de punir le péché. Il dit, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Mais Job affirme être innocent. Il dit, ce qui m'arrive là, c'est pas à cause de mon péché, je suis innocent. J'ai suivi Dieu dans toutes ses lois. Et dans 6:29, il dit, revenez, ne soyez pas injustes. Revenez, reconnaissez mon innocence. Il n'est pas en train de dire qu'il est parfait. Il sait que tout homme a péché. Il sait qu'il a commis des fautes de jeunesse. Il dit dans Job 9, 1, il dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et ce qui se pose la question, c'est pourquoi, à cause de quelques péchés que j'ai faits dans le passé, Dieu s'acharne sur moi comme si j'étais le plus grand criminel sur la terre. Donc, il ne dit pas qu'il est parfait, mais il dit qu'il est innocent dans la situation présente. Selon lui, il n'a rien fait qui mérite un tel châtiment. Il croit que Dieu le punit même s'il est innocent. Il dit dans Job 9, 21-22, « Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. » Là, c'est fort ce qu'il est en train de dire. Job, il dit « Dieu détruit l'innocent et le coupable. » Puis Job, on voit qu'il partageait quand même la même théologie que ses amis jusqu'à ce moment-là. Donc, lui aussi croyait que celui qui fait le bien va être récompensé, il va être heureux sur la terre. Celui qui fait le mal va avoir des souffrances et des malheurs, des épreuves. Donc là, il est partagé. Et je pense qu'il est déchiré. On le voit dans la manière dont il parle. Job, il dit, parce que si Dieu le punit alors qu'il est innocent, est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Pourtant, en même temps, il sait que Dieu est juste. Il a mis sa foi en Dieu. Donc, il est tiraillé. Puis c'est pour ça qu'il crie à l'Éternel et qu'il ose demander des comptes. Il ose demander à l'Éternel une explication. Pourquoi tu punis quelqu'un d'innocent comme moi? Et il dit à Dieu, dans Job 10, 2 à 3, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter et de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? » Il va même jusqu'à remettre la sagesse de Dieu en question. Te paraît-il bien de me punir comme ça? Alors ses amis, voyant que Job se dit encore être innocent, et voilà une attitude de rébellion. Ils sont convaincus que là, Job est rebelle. Ça se peut pas que quelqu'un ne voit pas son péché comme ça. Ils ne veulent pas se repentir. Ils sont sûrs qu'il connaît ses torts, mais qu'il ne veut pas les avouer parce qu'il ne veut pas changer. Qu'il est tout simplement rebelle. Puis là, ils l'avertissent que s'il ne se repent pas, il va finir comme les méchants. Il va être complètement détruit. Et jusque-là, là, c'était des épreuves, mais s'il continue à s'entêter dans le péché, à s'éloigner de Dieu, il va être détruit comme les méchants. Ils disent dans 15:5, « Ton iniquité dirige ta bouche. » Wow! « Ton iniquité dirige ta bouche. Tu prends le langage des hommes rusés. » Ils disent plus loin dans le chapitre 18, « La lumière du méchant s'éteindra. La flamme qui en jaillit cessera de briller. » Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Ils vont fort avec Job. Mais Job maintient toujours son innocence. Il ne fléchit pas. Alors là, ses amis vont jusqu'à porter des fausses accusations contre lui. Pour avoir raison. Dans Job 22, versets 5 à 10, il dit « Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le plus puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide et les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. » Bon, ils disent, ta méchanceté est grande, tes iniquités sont infinies. Ils vont fort, donc ils sont allés de plus en plus fort contre Job. Pourquoi les amis de Job veulent absolument avoir raison? Je pense que c'est parce que ça va... C'est parce que leur propre théologie en dépend. Toute leur vie, ils ont vécu en croyant que s'ils s'attachaient à la loi de Dieu, ils seraient heureux. Ils ont mis leur confiance dans leur ferveur religieuse, à suivre la loi de Dieu, à faire le bien, à avoir une bonne réputation auprès des hommes. Là, s'ils avouent que Job est puni ou qu'il subit des malheurs non mérités, non seulement ça brise leur théologie, ça brise leur philosophie de vie, mais en plus, ça veut dire que ça peut leur arriver à eux-mêmes. Là, après ça, ils vont vivre dans la peur, ils vont vivre dans l'inquiétude que ça peut leur arriver. Ils voient Job à quel point il souffre, là. Ils disent, oh, si vraiment il est innocent puis il souffre comme ça, moi aussi je peux souffrir comme ça. Ils ne veulent pas vivre dans la peur comme ça. Ils veulent continuer à être confiants dans leur loi, dans leur petit résumé qu'ils ont fait de Dieu, de sa manière dont il agit avec nous. Mais les amis de Job sont dans l'erreur. Même si ça semble être bon, c'est vrai que Dieu souvent garde le juste dans le bonheur. C'est vrai que souvent il bénit les chrétiens, il bénit les enfants, il les garde heureux. Et c'est vrai que souvent, normalement, il va punir les méchants. Que le méchant, même s'il profite un peu un jour ou l'autre, il tombe et il n'est pas heureux, que le crime ne paie pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas vrai que parce que quelqu'un tombe dans le malheur, que c'est parce qu'il a péché. Et c'est pas vrai qu'on regarde quelqu'un dans le monde qui prospère, qui fait de l'argent, qui est en santé, qui a bonne réputation, que ça veut dire qu'il mène une bonne vie. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu n'est pas pleinement appliquée encore sur la terre. On vit dans une terre, sur une terre qui n'est pas parfaite. La justice de Dieu va être pleinement appliquée au ciel, ou dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc on peut pas résumer toute la motivation de Dieu et la manière dont il agit à une règle de mathématiques aussi simple. Si tu fais le bien, tu es récompensé. Si tu fais le mal, tu es puni. C'est là l'erreur des amis de Job. À ce moment-là, parce que Job n'a pas avoué ses péchés, là, les amis de Job sont bouchés, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont allés même jusqu'à l'accuser faussement pour le provoquer. Et Job a maintenu le même discours. Voyant cela, ils se taisent, ils n'ont plus rien à dire. Et là, un quatrième ami, Élihu, qui lui n'avait pas parlé jusque-là, parce qu'il était plus jeune, et il voit un respect aux plus âgés, aux plus sages, mais là, il est offusqué de voir que trois sages comme ça ne sont même pas capables de confronter Job, qui manifestement est dans l'erreur. Puis là, c'est à son tour de parler. Puis on dirait qu'il dit la même chose, à première vue, à première lecture, mais sa théorie est différente quand même. C'est à partir de... Si vous voulez tourner avec moi dans Job 33, c'est vers la fin de Job. Job 33. Puis là, il reconnaît la sincérité de Job. Lui, il ne porte pas de fausses accusations. Puis il reconnaît que probablement Job est sincère quand il dit qu'il est innocent. Mais c'est probablement parce que Job ne voit pas ce que Dieu veut lui dire par là. Élihu croit que Dieu veut lui passer un message. En Job 33, à partir du verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Ici, ses os sont mis à nu. C'est comme une image pour exprimer les péchés qu'on ne voyait pas chez cet homme-là sont mis à nu. À cause de l'épreuve que le Seigneur envoie chez une personne, ses péchés vont être mis à nu, il va prendre conscience de son péché et les autres vont le voir aussi. Donc ce qui est de nouveau un peu dans le discours d'Élihu, c'est que le malheur n'est pas seulement une conséquence des actions, le malheur n'est pas une conséquence du péché, mais c'est un moyen par lequel Dieu se sert pour parler. Donc, ce n'est pas seulement une conséquence, mais il y a une cause à cela. Il y a un pourquoi. Dieu serait motivé à nous instruire, à nous à nous corriger, à nous ramener sur la bonne voie. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à le faire à répétition. Il dit deux fois, trois fois, le Seigneur va t'envoyer des épreuves pour te corriger. À chaque fois, à cause de sa miséricorde, il va te pardonner. Il va te ramener sur la bonne voie. Et parfois, tu te crois innocent, mais Dieu permet par les malheurs de réveiller ta réflexion et de voir qu'en réalité, tu n'étais pas innocent et que tu avais péché. Ou peut-être que tu es tenté, tu as pris une mauvaise voie, tu as pris une mauvaise décision, tu es en train de suivre la philosophie du monde, et si tu continues, ça va t'amener à pécher. Donc selon Élieu, à chaque fois que le malheur frappe, c'est parce que Dieu veut te ramener sur la bonne voie. C'est une façon d'instruire et de réveiller. C'est vrai que Dieu va se servir de l'épreuve pour nous parler. Ça arrive, ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous avez pris une décision sans penser à Dieu, puis là, tout à coup, Dieu vous frappe, puis oh! Puis vous prenez une autre décision, finalement. Ou même vous réalisez que vous avez péché, ou que vous êtes tenté, que vous mettez le pied dans le vide sur le bord du précipice. Ça arrive. Mais encore une fois, dans ce cas-ci, c'était pas la bonne explication. Et il y a eu ce trompe dans son raisonnement. Parce qu'il croit que c'est un automatisme. Il croit que Dieu attend et qu'à chaque fois qu'il s'implique dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il lui passe un message. Mais ce n'est pas un automatisme. C'est pas vrai que tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu a un motif derrière. Oui, Dieu dirige tout et Dieu veut tout ce qui se passe, mais c'est pas vrai qu'il est toujours en train de nous passer un message. D'ailleurs, au chapitre 2, verset 3... Après que Satan ait tenté pour une première fois Job et qu'il lui a envoyé plein de malheurs, qu'il a perdu ses enfants, Satan rencontre à nouveau, se présente à nouveau devant l'Éternel, puis l'Éternel lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif, sans raison, sans cause, dans d'autres traductions. » Dieu dit lui-même que si tous les malheurs arrivent sur le dos de Job, c'était sans motif. Donc, ce n'était pas la bonne explication. Il y a une troisième théorie qui nous vient peut-être plus naturellement à l'esprit, qui n'est pas directement présentée dans le livre de Job, sauf qu'on peut contrer cette théorie-là à cause du livre de Job. Cette théorie-là, c'est de dire que Dieu est assis, qu'il a fondé l'univers, qu'il l'a envoyé, et que tout ce qui se passe, dans le fond, n'est seulement qu'une suite logique d'événements, est une conséquence de l'événement de l'autre. Dans le fond, tout est pas le hasard, là, mais il y a des circonstances qui arrivent. Puis c'est pas Dieu qui est à la source du mal. C'est pas Dieu qui veut le malheur. Cette théorie-là dit que Dieu, vu qu'il est saint, il ne peut pas vouloir le mal. Il ne peut pas vouloir que des ennemis viennent tuer les serviteurs de Job. Il ne peut pas vouloir que les enfants de Job périssent parce qu'il est bon. Donc, ça ne vient pas de Dieu, donc on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas lui demander des comptes sur ce qui ne relève pas de Dieu. Certains croient que Dieu limite sa volonté, qu'il limite volontairement sa volonté sur nos vies parce qu'il veut nous laisser libres. Il veut nous laisser libres et donc, ce que ça sous-entend, c'est que tout ce qui nous arrive, ben, on en est la cause, on en est le responsable, on vit les conséquences de nos actes. Mais peut-être plus de nos actes communs. S'il y a des guerres, parce que dans le monde, on est méchant. S'il arrive un problème chez un chrétien, c'est peut-être pas seulement de sa faute, c'est peut-être de la faute des gens dans l'Église, c'est peut-être la faute de l'Église au complet, mais en tout cas, c'est de la faute des hommes. C'est pas de la faute de Dieu. C'est une pensée populaire. D'ailleurs, mais est-ce qu'on... Il y a plusieurs chrétiens qui vont le penser, même, mais c'est dangereux parce que c'est une pensée, dans le fond, qu'on retrouve dans plusieurs religions, tout cela. Même Bouddha a dit... selon Bouddha, le bonheur est né de l'altruisme. Donc, si on fait du bien pour les autres, on va être heureux. Et le malheur de l'égoïsme. Si on pense seulement à nous, on va être dans le malheur. C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. On va être heureux si on fait du bien aux autres, et on va être malheureux si on pense seulement à nous. Mais il y a des événements, des grandes souffrances, des malheurs qui se produisent, puis on n'en a aucun contrôle là-dessus. C'est comme de rejeter Dieu. C'est l'orgueil des gens qui ont construit la tour de Babel. C'est l'orgueil de l'homme. Et cette théologie est complètement fausse. D'ailleurs, Dieu est au contrôle du bien comme du mal. Une chose qui est frappante dans le livre de Job, c'est qu'il n'y a personne dans le livre, autant sa femme, ses amis, Élihu qui a parlé, Job lui-même, Satan, les anges, tous les intervenants, il n'y a personne qui remet en question que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ça paraît évident pour tous ceux qui sont là. S'il y a une chose qui est claire dans le livre de Job, c'est que c'est Dieu qui a tout décidé ce qui allait se passer. C'est Dieu qui a plongé Job dans le malheur. Pourtant, ce sont les Sabéens et les Chaldéens qui sont venus tuer ses serviteurs. Mais Job, quand il voit cela, il dit, oh, Dieu a donné et Dieu a ôté. Donc Dieu attribue même la cause de son malheur à Dieu, même si c'est des ennemis qui sont venus tuer ses serviteurs. Dieu aurait pu le corriger, lui dire, non, c'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est des ennemis. Mais au contraire, Dieu dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu est souverain et tout ce qui se passe est selon sa volonté. Dans Job 2:10, Job dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Même en disant ça, que le mal vient de Dieu, il ne pèche pas par ses lèvres. Alors la question demeure, pourquoi la souffrance et pourquoi Dieu garde le silence? Ses amis parlent, Job crie son désespoir, Dieu ne parle pas, Dieu semble être absent et ne répond pas. Pourquoi le silence de Dieu au moment où les chrétiens en ont le plus besoin d'entendre des explications, de comprendre pourquoi les choses se passent? Et là, enfin, Dieu parle et donne une réponse. Mais ce n'est pas la réponse qu'on aurait pu s'attendre. Ce n'est pas des explications. Et Dieu ne se justifie pas, il n'explique pas ses raisons. Au contraire, il amène Job tout de suite à regarder la création. C'est un fait surprenant, mais on voit l'effet que ça donne. Tout de suite, Job était encore à crier au désespoir, à crier à l'injustice, à regarder son malheur, souhaiter la mort. Et Dieu, quand il vient, qu'il intervient, il dit à Job, regarde ma création, regarde l'univers que j'ai créé. Dans 38:4, il dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Il parle de choses que Job n'a jamais vues encore. 38:22-23, « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre, de bataille? » Et là, Dieu lui explique toutes les choses qu'il a créées dans l'univers, les étoiles, le ciel, les forces physiques qu'on ne peut pas comprendre. Il parle de choses qui dépassent notre entendement. Comment Dieu a créé la vie? Des cellules, une seule cellule est plus complexe qu'une ville. Comment Dieu a créé cela? Comment Dieu a mis de l'intelligence dans l'être humain pour que l'on puisse penser, que l'on puisse être conscient qu'on existe? Il dit, qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? En fait, la réponse de Dieu à Job est simple. C'est, j'ai pas de compte à rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre, Job. Pour qui tu te prends? Puis il lui montre sa grande sagesse. L'Éternel, s'adressant à Job, lui dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Non, là, Job n'avait plus de réplique à faire. En regardant l'univers créé par Dieu, il n'y a pas le choix que de voir l'immense sagesse de Dieu. Il voit qu'il ne peut pas résumer toute la sagesse de Dieu et la façon dont il interagit avec nous à une simple formule mathématique, que si tu fais le bien, tu es béni, si tu fais le mal, tu es puni, ou à simplement dire qu'à chaque fois que Dieu permet des choses, c'est parce qu'il veut nous passer un message, il est toujours en train de nous guider comme par une laisse. On ne peut pas résumer la façon dont Dieu agit simplement par une équation, en regardant à quel point le ciel est complexe, en regardant à quel point l'être humain est complexe, et que la sagesse de Dieu nous dépasse. Alors pourquoi tenter d'expliquer les raisons de Dieu pour le bonheur et le malheur qu'il nous envoie? Il faut plutôt accepter de ne pas avoir de réponse aux motivations de Dieu, parce que de toute façon, notre petite intelligence ne pourrait pas comprendre. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il a créé l'homme à son image pour qu'on apprécie. Il nous a rendus assez intelligents pour qu'on puisse apercevoir à quel point l'intelligence de Dieu nous dépasse. Mais on n'est pas l'égal de Dieu. Même Satan, qui a vu les actions de Dieu depuis la fondation du monde, ne comprend pas. Puis il est dans l'erreur face à la volonté de Dieu. Job n'a pas d'autre choix que de se taire. Il dit dans Job 39, 36 à 38, Job répondit à l'Éternel, il dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et deux fois, je n'ajouterai plus rien. » Mais Job ne semble pas encore avoir changé d'idée. Ce qu'il a réalisé, dans le fond, c'est qu'il ne peut pas combattre contre Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il ne peut pas le confronter. Il ne peut pas lui demander des comptes. C'est correct, je me tais. Mais on peut croire que Job pense encore qu'il a vécu une injustice. Il n'y a pas eu d'explication. Il pense encore qu'il a été malheureux, mais d'un malheur non mérité. Alors Dieu lui parle de deux de ces créatures qui inspirent la peur, l'hippopotame et le crocodile. Puis même la description qu'il en fait, on dirait que c'est des êtres encore plus gros que ce qu'on connaît aujourd'hui comme hippopotame et crocodile. C'est comme le Léviathan. C'est peut-être une version dinosaure là, de l'époque, là, avant le déluge. Avant le déluge, puis c'est très... Parce que même il décrit les crocodiles comme pouvant cracher le feu. Mais c'est des images, mais pour montrer à quel point c'est des bêtes terribles. Un peu comme les bestioles que vous avez dans le local à côté ici. Là. Mais, dans le fond, ce qu'il veut montrer à Job, c'est l'homme, oui, est intelligent, oui, mais est-ce qu'un homme peut combattre contre un hippopotame? Il ne peut même pas percer sa peau de la lance. Est-ce qu'il peut combattre contre un crocodile? Est-ce qu'il peut disputer avec lui son repas? Il va se faire bouffer. Tu ne peux pas te battre contre ces créatures-là. Et là, Job réalise que Dieu est un Dieu à craindre. Il est un Dieu tout-puissant qui peut écraser l'homme avec son petit doigt. Il peut juste dire un mot et l'humanité est effacée de l'univers. Dieu est à craindre et il mérite le respect. Alors Job doit se soumettre à Dieu. Il ne doit pas exiger de Dieu qu'il lui rende des comptes. Alors enfin, Job se repent. Il change d'idée. Donc on peut croire que là, il a mis de côté son ancienne théologie. Il change d'idée, il se confie en l'Éternel. Il arrête de chercher à mettre Dieu dans une boîte pour le comprendre et se justifier. Il apprend alors à connaître le vrai Dieu, pas seulement l'image qu'il s'était faite de lui. Il dit dans Job 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Pas qu'il reconnaît avoir fait des péchés qui l'ont mené à tous ces malheurs-là. Il reconnaît du moins le péché d'avoir osé défier Dieu, d'avoir osé insinuer que Dieu était injuste, d'avoir osé lui demander des comptes. Et il dit, « Maintenant, mon œil t'a vu. » Puis on peut croire que jusque-là, Job n'avait pas une relation aussi intime qu'à partir de ce jour-là. Sûrement que là, il a eu une relation beaucoup plus intime, il s'est confié en Dieu. Et à partir de ce point-là, on ne voit plus de cris de désespoir de Job. Il semble apaisé, consolé. Puis même, on voit plus loin que Dieu l'a relevé. Il l'a béni au point où il était plus riche qu'avant, de beaucoup, plus puissant, encore plus d'honneur. Il lui a redonné une famille et encore le chiffre symbolique de 7 fils. Et Dieu l'a béni. Job doit mettre sa confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. En toutes circonstances, il doit croire en la justice de Dieu et en son amour pour lui. Il doit renoncer à trouver la cause de ses malheurs. C'est vain de gaspiller son temps à essayer de comprendre les agissements de Dieu. Salomon, qui est l'homme le plus sage qui a jamais existé, il a écrit dans le livre Ecclésiaste que c'était une vanité même d'essayer de comprendre ces choses-là. Il dit dans Ecclésiaste 8, 14, « Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. » Et il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Ça aussi, ça avait frappé l'esprit de Salomon. Mais il dit, c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie. Parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. Se réjouir de ce que Dieu nous donne au moment présent, lorsqu'il nous bénit. C'est là ce qui doit accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui passent sur la terre, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. On ne peut pas comprendre la motivation de Dieu. Mais on peut se confier en lui. Et Job s'est confié en l'Éternel, il a été apaisé. Donc Job n'a peut-être pas eu une leçon, une explication à sa question. Mais il a eu une leçon quand même, il a eu une réponse pratique. Il n'y a pas eu une réponse théorique, il y a eu une réponse pratique. Dieu lui a fait comprendre, confie-toi en moi, peu importe ce qui arrive. Fais-moi confiance. Je suis juste, j'aime mes enfants. Je suis saint, peu importe ce qui arrive, même si je permets que le malheur arrive dans ta vie, je suis encore le même Dieu. Je ne t'ai pas chassé. Tu me partiens encore, tu es encore dans le creux de ma main. Donc, on ne peut pas se confier dans notre fidélité à Dieu pour nous assurer d'être heureux, comme les trois amis de Job faisaient. On ne peut pas mettre notre confiance dans le suivi religieux des lois de Dieu et d'avoir bonne réputation auprès des gens pour s'assurer qu'on va être heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, les justes sont aux prises avec des malheurs, et parfois, les méchants sont heureux. Mais oui, la justice de Dieu, un jour, va être accomplie parfaitement au jour du jugement, au jour de la résurrection, mais pas sur cette terre. On ne peut pas non plus se confier dans le fait que ce qui nous arrive est bien, puis que ça semble bien aller, pour dire... Je suis dans les faveurs de Dieu, Dieu approuve ce que je fais. Si j'entreprends un projet et que ça semble bien aller, ça fait un an que ça va bien, ça doit être c'est sûr que c'est parce que Dieu est d'accord avec ça. Non, ça se peut qu'on ait entrepris un projet, ça se peut qu'on ait pris une décision et que ça semble bien aller, mais qu'on a quand même mal agi, qu'on est quand même dans le péché. Et ça se peut aussi qu'on rencontre des obstacles. Puis là, on pourrait croire, ça doit être parce que Dieu n'est pas d'accord avec ce que j'ai pris comme décision. Si je vous racontais tous les obstacles qui nous arrivent face à notre décision de que je sois dans le ministère à temps plein, cette année, je pense qu'il y a eu une concentration d'attaques plus que dans tout le reste de ma vie. Et si je devais conclure par là que Dieu ne veut pas que je le serve à l'Église, je pense que je serais dans l'erreur. Donc, on ne peut pas ni mettre notre confiance dans le respect de la loi... On ne peut pas non plus mettre notre confiance dans le fait que ça va bien pour croire qu'on est pur devant Dieu. On ne peut pas non plus croire que le malheur ne vient pas de Dieu puis mettre notre confiance dans notre propre sagesse. On ne peut pas croire que Dieu nous a créés avec une intelligence et qu'à chaque fois qu'on vit un événement fâcheux, on apprend de nos erreurs et que ça va aller de mieux en mieux. Puis qu'au fur et à mesure qu'on acquiert de la maturité au courant de notre vie, qu'on va avoir de moins en moins d'épreuves parce qu'on prend de mieux en mieux des bonnes décisions. On ne peut pas croire que Dieu nous a mis libres sur la terre et qu'on est maître de notre destinée. Donc, on ne peut pas non plus mettre notre confiance dans notre propre force, dans notre propre sagesse ou dans les conseils des autres. C'est trois fausses pensées. Dieu est au contrôle de tout. On n'est pas maître de notre destinée. Dans Romains 9, Paul dit « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, qui sait? Paul non plus ne le sait pas. Personne ne le sait. Pourquoi Dieu attend patiemment et qu'il ne punit pas tous les méchants sur la terre? Il attend au dernier jour. Mais il agit aussi, mais pas, il n'applique pas pleinement sa justice. Même si on reste sans explication, on peut, comme Job, trouver une solution pratique aux épreuves. On peut se confier en Dieu, même lorsqu'il ne semble pas nous répondre, lorsqu'il semble garder silence. On peut être apaisé par sa présence. On peut considérer comment Dieu accompagne dans l'épreuve. On peut chercher à s'approcher de lui, d'un cœur purifié, en lisant sa parole, en priant, en le louant, en venant ici le dimanche matin louer avec les frères, mais aussi en ayant un culte personnel pendant la semaine. Quand on est au désespoir, on peut se tourner vers Dieu. Et peu importe quel était le but de Dieu, qu'il en ait un ou pas, mais de toute façon, c'est, tout se passe selon sa volonté, on ne peut pas faire d'erreur si on adopte la stratégie de se confier en l'Éternel et de vouloir s'approcher de lui. S'il voulait nous reprendre parce qu'on était dans le péché, ben en voulant s'approcher de lui, en lisant sa parole, en priant, veut pas, on va se repentir, on va mettre nos péchés de côté. Ou si Dieu voulait nous passer un message, si on a entrepris un projet, ou si on a développé une habitude de loisir, ou une façon de parler, une façon d'agir qui nous emmène sur une mauvaise voie, qui nous fait dévier de la bonne voie, bien, se rapprocher de Dieu, lire sa parole, prier, va forcément nous ramener sur la bonne voie. Donc, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi Dieu fait les choses. À chaque fois, on n'a qu'à se rappeler de se confier en l'Éternel, de se rapprocher de lui. Et si c'est parce qu'on pense être libre en Dieu, mais être libre de faire tout ce que l'on veut et que Dieu nous a créé avec une intelligence et qu'on va forcément avoir un meilleur destin de jour en jour, bien, se recentrer sur Dieu quand il arrive des malheurs va nous rendre plus dépendants de lui. Parce que plus on lit la Bible, si vous faites l'exercice de lire la Bible de nombreux chapitres par jour, faites l'exercice de lire la Bible au complet en un an, vous allez voir toute la supériorité, la souveraineté de Dieu au travers de toute l'histoire. C'est impressionnant de voir que les personnages défilent, la vie est courte, mais c'est toujours le même Dieu qui est là, c'est le même Dieu qui voit tout ça. Ça nous pousse à nous agenouiller et à reconnaître que c'est Dieu qui est souverain. Donc, dans tous les cas, si on se retourne vers Dieu, on est gagnant. Et même si le malheur est là, on va être dans la paix. Et on va passer à travers l'épreuve. Dieu semble parfois ne pas répondre, mais c'est que ce n'est pas encore le temps. Dieu répond toujours. Il prend soin de nous. Et pour certains, il ne les délivre pas du malheur pendant qu'ils sont sur la terre, mais tous les enfants de Dieu seront relevés au jour de la résurrection. Notre espérance dans la vie éternelle, c'est ce qui nous rend heureux. Malgré les malheurs, il faut se confier patiemment en Dieu. Et Job était un exemple de patience. C'est ce que Jacques dit. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et même si le Seigneur ne l'avait pas relevé sur la terre, Job, quand même il était heureux, parce qu'il avait mis sa confiance, et Job espérait dans le jour de la résurrection. Il le savait. Il dit dans Job 19, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. » Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles. Sachez qu'il y aura un jugement. David aussi a été un exemple de patience dans l'épreuve. Il criait, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. David se posait les mêmes questions. Pourquoi? Jusqu'à quand? Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. À cause de ton salut, à cause de l'espérance. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Dans le psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont déchiré mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Ça nous rappelle la description des souffrances de Jésus. Et Jésus est d'ailleurs l'exemple ultime de souffrance et de patience dans la souffrance et de patience dans le silence de son Père. Lorsqu'il était sur la croix, juste avant de mourir, il a répété les mêmes paroles que David avait dit. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est la question de tout homme, mais Jésus était un homme à 100%. Il était en même temps Dieu. Mais même s'il était le fils aimé de son Père, le fils unique, Dieu ne l'a pas secouru. Jésus est mort, et c'est seulement 3 jours après sa mort qu'il a été relevé. Jésus a été patient jusqu'à la mort. C'est l'exemple ultime de comment se confier en Dieu, de ne pas le renier et d'être dans la paix. Jésus, même cloué sur la croix, même persécuté, était dans la paix. Jésus a attendu patiemment le secours de son Père. Et Dieu a attendu parce que c'était pour le mieux. C'était pour le mieux pour son Fils, c'était pour le mieux pour les disciples de Jésus à l'époque, c'était pour le mieux de toute l'humanité. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Parce que la manière dont il agit dans la vie de quelqu'un a une influence sur un autre, et une influence sur un autre, et des réactions en chaîne qui dépassent notre entendement. Et Dieu est au contrôle de tout cela. Il est au contrôle de la mort de Jésus. Et à cause du sacrifice de Jésus, tous ceux qui placent leur espérance en Jésus, en son sacrifice, et qui se repentent de leurs péchés, se confient en l'Éternel, sont sauvés. Ils peuvent avoir la même espérance que Job avait dans le jour de la résurrection. Alors, supportons patiemment les épreuves. La justice de Dieu n'est pas encore appliquée parfaitement sur la terre. Supportons patiemment. Confions-nous en Dieu, même s'il ne donne pas d'explication, même s'il semble garder le silence. Même s'il attend parfois avant de nous délivrer. Et en tout temps, que le nom de l'Éternel soit béni. Courbons nos têtes. Merci Seigneur pour ce texte. Merci pour cet homme pieux qui te servait, qui est un modèle pour nous. Mais merci aussi d'avoir permis ce malheur dans sa vie. On ne comprend pas toutes tes raisons. On accepte avec humilité que tu ne donnes pas des explications sur ta volonté. C'est toi le potier. Nous, on n'est que l'argile que tu façonnes. Aide-nous à être assez humbles pour le reconnaître et assez humbles pour se soumettre à toi, se soumettre à ta volonté. Continuer à marcher, quoi qu'il arrive, à t'être fidèle. Et surtout à dépendre de toi. Aide-nous à mettre notre confiance en toi, à s'encourager les uns les autres, à ne pas se juger, à ne pas juger son frère parce qu'il est dans le malheur, à ne pas juger la façon dont il se comporte devant Dieu, mais qu'en tout temps être des encouragements, des encourageurs pour les autres. Et on te prie de délivrer, je te prie de délivrer mes frères et sœurs qui vivent des souffrances, accorde-leur... Mais montre-leur que tu es avec eux. Accorde-leur ton Saint-Esprit qui remplisse pleinement leur cœur. Donne-leur la paix. Et amène-nous tous ensemble dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là où on pourra voir ta face. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.